Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la géhenne, pour y demeurer éternellement. de toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran. On rentre ce lundi 21 mars 2022. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Le guide suprême de la révolution islamique a salué dans son message de félicitations à l'occasion du nouvel an le peuple iranien pour avoir vaincu la politique de pression maximale des États-Unis. Le président iranien Ibrahim Raisi aussi a félicité la nation iranienne pour l'arrivée du Nowruz. La résistance yéménite a mis en garde contre la poursuite du siège et de l'agression contre le Yémen. L'Occident devrait concentrer sur les exigences légitimes de Téhéran dans les pourparlers de Vienne, selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Plus de 20 pays participeront au sommet de la francophonie en Tunisie. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a présenté dimanche ses félicitations à la grande nation iranienne et à toutes les nations solidaires et unies à l'occasion de Nowruz, le nouvel an iranien. Conformément à la tradition, le guide suprême de la révolution islamique a baptisé cette nouvelle année, l'année 1401 du calendrier iranien, en la désignant année de la production basée sur la connaissance et la création d'emplois. Je félicite cette occasion aux familles patientes et honorables des martyrs, aux chers invalides de guerre et leurs familles, ainsi qu'aux serviteurs dévoués de la nation iranienne dans différents domaines de la santé, de la sécurité, de la résistance et de la science, a souligné le guide suprême de la révolution islamique. Il a noté que l'échec lamentable de la politique de pression maximale des États-Unis figurait parmi les plus belles et les plus grandes réalisations du peuple iranien au cours de l'année écoulée. La nation iranienne a résisté et remporté la victoire, prouvant ainsi la justesse de sa voix contre l'arrogance internationale, a-t-il souligné encore. abordant les élections de 2021. Le guide suprême de la révolution islamique a affirmé que le scrutin a été vraiment important et magnifique. Dans une période difficile sous le coronavirus, où on comptait de 500 ou de 600 de décès par jour, les élections ont eu lieu et les gens sont allés aux urnes. Le résultat de ces élections a été une nouvelle administration populaire qui s'intéresse aux deux objectifs du peuple et se déplace sur des rails différents de ceux de l'honorable administration précédente et qui a heureusement ravivé l'espoir parmi le peuple, a-t-il précisé. Il a également déploré les moyens de subsistance limités de la population, les prix des élevés et l'inflation qui ont fait partie des problèmes les plus difficiles de l'année écoulée. Les problèmes économiques du pays peuvent et doivent être résolus, a-t-il souligné, et de poursuivre. Un autre point saillant pour la nation iranienne en 1400 a été le progrès scientifique et technologique allant de la production de différents types de vaccins au lancement de satellites. Ce furent les importants points culminants de l'année 1400. Concernant le coronavirus, l'honorable Ayatollah Khamenei a indiqué que la confrontation de cette épidémie est un autre point saillant pour la nation iranienne en 1400, où les taux de mortalité passés à plusieurs centaines par jour ont décru à 20 ou 18. Bien que les taux de mortalité aient à nouveau augmenté dans une certaine mesure, la différence est remarquable entre ces jours-ci où, Dieu soit loué, le vaccin est disponible pour tout le monde et ces jours-là, a-t-il précisé. Le président iranien Ebrahim Raisi a félicité la nation iranienne pour l'arrivée du Nowruz, a déclaré que le 14e siècle, en fait, solaire, était le siècle de la révolution islamique et de la nation iranienne. Dans son premier message de Nowruz à la nation iranienne, à la grande mosquée de Khorramshahr, le président Raisi a déclaré que la nation iranienne verra sans aucun doute le résultat de son endurance cette année en disant « Mon premier message de Nowruz en tant que président et serviteur du peuple est l'effort incessant pour construire un Iran fort et avancé. Aucune nation n'a réalisé quoi que ce soit sans un travail intensif et l'utilisation maximale des ressources humaines et naturelles. Et la nouvelle année et le nouveau siècle doivent être le début d'un nouveau siècle de travail productif, utile, fructueux et progressif pour nous tous, a ajouté le président Raisi. Le président considérait la mosquée de Khorramshahr comme un symbole de la fermeté du peuple iranien et a déclaré qu'au cours de la guerre imposée de 8 ans, l'Est et l'Ouest étaient alignés sur un même front face à l'appel à l'indépendance de l'Iran. Mais aujourd'hui, ils sont en concurrence pour traiter avec l'Iran. C'est la grandeur du peuple iranien. Le président Raisi a souligné le peuple iranien a surmonté des moments difficiles et historiques avec en fait de perspicacité et de force de son indépendance, mais bien sûr, il n'ignore pas le complot de l'ennemi. Le président Raisi a déclaré « Mon premier discours à l'occasion de Nowruz en tant que serviteur du peuple est le message d'un travail inlassable et de persévérance pour construire un Iran fort et avancé. Aucune nation n'a accompli quoi que ce soit sans un travail considérable, une utilisation maximale des ressources humaines et naturelles, et la nouvelle année et le nouveau siècle doivent être le début d'un nouveau siècle de travail productif, utile, fructueux, avancé pour nous tous. » Cette année, la question de l'offre de l'emploi sera la première question du gouvernement, si Dieu le veut. Le soutien à la production sera au sommet des plans du gouvernement. Le chômage est la source de toutes les catastrophes économiques et sociales et le soutien à la production sera au sommet de l'agenda du gouvernement, a poursuivi le président Raisi. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, avait réfuté les rumeurs selon lesquelles Moscou bloquerait un accord dans les pourparlers de Vienne, déclarant que l'Occident devrait concentrer son énergie sur la manière de répondre aux exigences légitimes de l'Iran. S'adressant aux parties occidentales à l'accord sur le nucléaire, Maria Zakharova a déclaré « Toute tentative de remettre en cause notre engagement à relancer le plan global d'action conjoint est un jeu sale de la part de ceux qui refusent d'admettre leurs erreurs et la violation de leurs engagements passés. » La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a ajouté qu'il continuait à pointer du doigt les autres et chercher à ne pas assumer la responsabilité de l'effondrement de l'accord nucléaire. Lorsqu'il s'agit de négociations sérieuses, en particulier sur l'avenir d'un accord international comme le plan global d'action conjoint, il n'y a pas de place pour le tollé public ou la spéculation. Nous devons discuter à nouveau. En fait, des demandes de la Russie dans le cadre des pourparlers de Vienne, a-t-elle insisté. Le Kremlin a déclaré dès lundi qu'un potentiel embargo européen sur le pétrole russe frapperait tout le monde au moment où l'Union européenne doit étudier lors d'une réunion la possibilité de nouvelles sanctions contre Moscou. Un tel embargo aurait une influence très sérieuse sur le marché mondial du pétrole, une influence néfaste sur le marché énergétique en Europe, mais les Américains n'y perdront rien, c'est évident. Ils se sentiront bien mieux que les Européens, a affirmé Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe. C'est une décision qui frapperait tout le monde, a-t-elle poursuivi lors d'un point de presse. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'Union européenne doivent en fait se retrouver pour une réunion consacrée à l'examen de nouvelles sanctions contre la Russie. Le mouvement yéménite d'Ansar Allah a mis en garde contre la poursuite du siège et de l'agression contre le Yémen en annonçant les détails d'une attaque contre les installations vitales de l'Arabie saoudite. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Sari, a annoncé qu'en réponse au siège et à l'agression des Saoudiens contre le Yémen, les forces armées yéménites ont mené la troisième phase de l'opération militaire à grande échelle baptisée Opération 2 pour vaincre le siège du Yémen. Dans cette opération, une installation du géant pétrolier Aramco à Jeddah et des cibles vitales à Jizan ont été ciblées avec un certain nombre de missiles balistiques et de missiles de croisière du type OTS-2, a déclaré le général Sari, cité par la chaîne yéménite Al-Masira. Cette opération a été un succès et a atteint ses objectifs, a-t-il souligné. Le prochain sommet de la francophonie prévu en novembre est la 8e session du Symposium international de Tokyo pour le développement en Afrique en août auront la participation de 120 pays, a annoncé la chef du gouvernement tunisien Najla Bouden. Elle s'est intervenue à l'ouverture d'une réunion du comité national d'organisation de ces deux événements d'envergure régionale et mondiale. La chef de la primature tunisienne a affirmé à cette occasion la ferme volonté de la présidence de la République et du gouvernement d'être fin prêt pour assurer le succès de ces deux importantes échéances, exprimant dans le même contexte la fierté de la Tunisie d'avoir choisi en fait cet événement et d'avoir en fait l'honneur d'abriter les deux sommets avec la participation de plus de 20 pays de différents continents et d'organisations régionales internationales, a souligné la première ministre tunisienne. Madame Bouden a également exprimé l'énormité de la responsabilité confiée à tous les acteurs pour prouver que la Tunisie est digne de cette confiance et on est capable d'organiser de grands événements internationaux avec aptitude tant sur le plan logistique que de celui du continent. Il s'agit en fait de deux événements très importants qui seront organisés en Tunisie, deux événements importants auxquels participeront les représentants de 20 pays de différents continents du monde. Cela montre en effet l'importance de la Tunisie tant sur le plan de l'échiquier du continent africain qu'à l'échelle régionale et internationale. C'est la fin de notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, les progrès acquis depuis quelques années en Afrique semblent anéantis d'une part à cause du Covid, mais de l'autre part, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Depuis qu'on exerce des sanctions à l'encontre de la Russie, les prix des denrées alimentaires, également des prix des carburants ont augmenté. Donc, ce qui n'arrange pas les choses, l'Afrique, déjà un continent très vulnérable, donc sera affaibli davantage. Avant même qu'on parle de l'Ukraine, de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, l'Afrique avait connu une inflation importante et une baisse de son PIB considérable. Nous allons essayer de trouver des solutions à l'aide des experts de questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Transmis le 10 mars, Kristalina Georgieva est revenue sur les conséquences de l'invasion russe en Ukraine sur les économies africaines. L'Afrique est particulièrement vulnérable aux impacts de la guerre en Ukraine par le biais de quatre canaux principaux. Augmentation des prix des denrées alimentaires, hausse des prix de carburant, baisse des revenus du tourisme et potentiellement plus de difficultés à accéder aux marchés de capitaux internationaux, a indiqué la directrice générale de FMI à l'issue d'une rencontre organisée le 9 mars avec les ministres africains des Finances, les gouverneurs des banques centrales africaines et les représentants de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. La guerre en Ukraine dévaste la vie de millions de personnes et affecte gravement l'économie ukrainienne. La guerre et les sanctions sans précédent imposées à la Russie ont des conséquences d'une portée considérable. Elles surviennent à un moment délicat pour l'Afrique, a-t-elle ajouté. Mais l'Europe, elle-même touchée par cette guerre, se trouvant en pleine crise, est-elle réellement en mesure d'aider une Afrique qui a montré durant toutes ces années qu'elle est capable de s'appuyer sur ses capacités et faire face à tout genre de complots et de tentatives de déstabilisation?
Voilà pour le reportage. Vous regardez l'émission Le Débat. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir nos deux chers invités, en commençant par M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse. M. Dortiguier, bonjour.
Bonjour, monsieur, et bonjour à tous vos auditeurs et à votre invité, qui je crois, M. Michel.
Voilà, exactement, tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles cette fois. M. Michel, bonjour.
Je n'entends pas.
Voilà, M. Luc Michel, bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Bon, nous allons essayer de joindre M. Luc Michel depuis Bruxelles tout à l'heure. Ma première question va s'adresser à M. Pierre Dortiguier depuis Toulouse. Oui. M. Dortiguier, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, bien sûr, ont des conséquences très négatives sur l'Europe et tout le monde entier. Mais nous allons essayer de parler plus particulièrement à propos de l'Afrique. Les sanctions exercées à l'encontre de la Russie, bien sûr, auront des conséquences économiques néfastes pour la Russie, mais également pour le monde entier. Que pensez-vous?
Oui, en effet, il s'agit là, disons, d'un... comment pour le dire en un seul mot, d'une crise, comme on dit autrefois, interne, à l'ensemble du capitalisme mondial, dans lequel, évidemment, que ce soit la Russie qui suit la Russie, autrefois Union soviétique, et tous les pays, les États-Unis, mais seulement, tous les États et toutes les anciennes colonies sont impliqués, vous voyez. En ce sens, le monde forme une unité. On parle d'une division de blocs, oui, mais en réalité, ces blocs sont unis par un marché. Vous voyez, c'est le paradoxe de cette guerre qui finalement est une sorte de guerre intestine. Ce n'est pas une guerre de conquête à laquelle nous assistons seulement en Ukraine. C'est une guerre, disons, de défense peut-être contre une crise économique qui, elle, est inhérente peut-être. Je dis peut-être, mais vraisemblablement, à la manière de vivre. Bon, ceci, on ne peut pas le changer. C'est ce qu'on appelait autrefois le capitalisme. Bon, je dis ça sans aucune nuance, ni de gauche, ni de droite. Mais l'Afrique, elle, est entraînée là-dedans. Alors, le drame de l'Afrique que Mme Georgieva, la directrice bulgare donc du Fonds monétaire international, a indiqué, me semble venir de ce que, comme on disait autrefois, elle est mal partie. Il y avait un livre en 1960 qui le disait. Et en effet, au lieu que l'Afrique, disons, s'occupe d'un développement intérieur adapté à sa nature propre, les dirigeants, les uns et les autres, disons, formés à l'école occidentale ou à l'école russe, ont voulu, disons, appliquer des modèles extérieurs à l'économie africaine. Et donc, disons, ceci ne passe pas. Et maintenant, nous sommes en état vraiment de crise, c'est-à-dire que les défauts apparaissent, les manquements apparaissent. Et je crois que ceci vaut pour beaucoup de sociétés, bien sûr. La France est touchée par la hausse de l'essence, par exemple. Mais également, nous savons que nous allons vers une crise financière, économique considérable. Et l'Afrique, elle, au lieu de, à mon avis, c'est le reproche que l'on peut faire à l'ensemble des élites africaines, pas au peuple africain, c'est d'avoir voulu imiter des modèles extérieurs, au lieu de trouver un modèle intérieur de développement. Vous savez, je conclurai en disant qu'il y a la formule de l'imam Khomeini, ni Est ni Ouest, vous voyez. Bon, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'Afrique apprenne à être elle-même, voyez-vous, et sans avoir à changer, disons, de zones d'influence. Ceci vaut pour l'Afrique du Nord, pour le Maghreb, mais également encore plus, à mon avis, pour l'Afrique subsaharienne.
Oui, tout à fait. À présent, j'ai le plaisir d'accueillir M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour professeur Dortiguier, et toujours heureux d'être parmi vous.
C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission, M. Michel. Alors, M. Pierre Dortiguier considère cette guerre entre l'Ukraine et la Russie non pas comme un conflit, mais comme une crise économique, car cette crise, justement, a des impacts extrêmement néfastes, pas seulement pour la Russie et l'Ukraine, mais également pour l'Europe, mais particulièrement pour l'Afrique, un continent très vulnérable. Que pensez-vous ?
Écoutez, pour une fois, je suis d'accord avec certains experts sérieux de l'Occident. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce n'est qu'un prétexte. L'Express à Paris a publié un éditorial très intéressant dont je partage l'analyse ce vendredi. Il a dit que les buts de guerre de Poutine, c'était en réalité de briser l'hégémonie militaire occidentale et de détruire l'hégémonie économique occidentale. Cela par la guerre suicidaire que les Américains ont tenté et que les Européens ont poursuivi. Ce qu'on constate actuellement, c'est tout simplement, il y a par exemple le professeur Ernst à l'université de Liège qui explique que ce passé du gaz russien, les autres experts annoncent un choc pétrolier plus important que celui lors de la guerre du Kippour en 1972. Voilà ce qu'on retient de l'affaire. Au milieu de tout ça, l'Afrique, évidemment, elle est prise en otage. Elle est prise en otage par les Occidentaux qui n'ont pas changé de logiciel et qui ont essayé de recruter des mercenaires, c'est-à-dire de l'infanterie coloniale, comme en 1914 ou en 1943, à l'indignation de tous les chefs d'État occidentaux, dont Macky Sall, le président de l'Union africaine. C'est une erreur fondamentale. La majorité des masses africaines et 17 pays africains qui ont refusé de se prononcer sont derrière Poutine. Pourquoi? Tout simplement, il faut une fois de plus écouter aussi les Occidentaux. Moi, je crois que se faire enseigner par l'adversaire est un honneur et un devoir. Il y a un éditorial ce matin dans Jeune Afrique sur les conseillers de Poutine en Afrique. Ils expliquent dans une introduction qui est très intéressante que Poutine capitalise sur l'héritage soviétique. Moi qui suis en permanence sur les plateaux de télévision, en compagnie de camarades panafricanistes, je vois seulement que l'admiration pour Poutine, ce n'est pas seulement pour son action en Afrique depuis 2015-2016, mais c'est aussi l'héritage de celui qu'on appelait Brejnev africain dans les années 1970-1980, et aussi l'héritage de la conférence de Bakou à partir de 1922. L'Afrique, elle est frappée au corps, d'une part par la guerre gazière, la guerre américaine du gaz en Ukraine, mais qui va avoir des conséquences, puisque les Américains voudraient ruiner les autres économies gazières, les économies proche-orientales. On voit que les Émiratis et les Qataris se tournent vers le bloc de l'Est, c'est un retournement géopolitique, mais également sont visées les économies gazières du Sénégal, de l'Algérie et de la Guinée équatoriale. Deuxième domaine dans lequel l'Afrique va être victimisée, c'est le domaine des fournitures de blé. Les deux plus grands fournisseurs de blé mondiaux, à hauteur de plus de 90%, c'est la Russie et l'Ukraine. Les fournitures de blé vont donc de l'aveu même d'Emmanuel Macron, qui est d'un cynisme incroyable, à cause de la politique de l'Union européenne. Les fournitures de blé en Afrique vont s'interrompre pendant un an et demi, et ça va être une crise alimentaire et une crise financière dans toute l'Afrique. L'Afrique, maintenant, est en train de le comprendre. Les masses panafricaines, en tout cas, et certains dirigeants, il n'y a pas d'alternative. La liberté de l'Afrique, elle passe avec l'Union, avec le bloc de l'Est, avec la Russie, la Chine et l'Iran, et pas du tout avec les Occidentaux. Les Occidentaux apportent la guerre, les guerres extérieures, ils apportent l'appauvrissement, ils apportent les guerres économiques. Ça doit suffire, évidemment. Et ce qui s'est passé de 1960 à 2015, ça ne peut plus durer. On n'est plus au temps de Tintin au Congo ou au temps de Fokker et du général de Gaulle.
Absolument. Pierre d'Ortiguier, j'aimerais qu'on se concentre davantage sur l'Afrique et qui, donc, d'après donc, M. Luc Michel, on essaie d'affaiblir plus que jamais l'Afrique. Déjà avant que le conflit entre l'Ukraine et la Russie ait lieu, on avait une baisse des PIB donc, de ce continent, une baisse considérable, une inflation importante. Donc déjà, l'Afrique était en crise, malgré le fait que pendant des années, l'Afrique avait connu des progrès importants. Oui. Mais ces progrès semblent anéantis depuis qu'on a eu cette crise sanitaire. Mais cette fois, cette crise, même si l'Afrique, comme le Mali ou le Burkina Faso ou le Niger, se tourne vers le bloc de l'Est, la Russie en particulier, mais les impacts sont là. Donc l'augmentation des denrées alimentaires ou l'augmentation des prix du carburant pour un pays et pour un continent déjà très vulnérable aura des impacts néfastes, n'est-ce pas?
Oui, en effet. Et ceci, donc je me permets d'insister, modestement, mais d'insister, que ceci vient de ce que les Africains, quels que soient les régimes, mais les Africains, je veux dire, de façon anthropologique, enfin de façon, disons, à prendre les choses comme elles sont, disons, non pas d'après les idéologies, n'ont pas cherché, j'entends leurs élites, à trouver un modèle de développement qui soit adapté à l'Afrique. Ça, c'est une chose qui est, que nous sentions, nous autres, dans ma génération, lorsque nous étions envoyés en coopération. Je n'ai pas voulu avoir la coopération en Afrique noire parce qu'un de mes amis était revenu avec le paludisme. Alors j'ai pris la coopération en Tunisie. Et je m'apercevais que, évidemment, le regard des élites était toujours vers les anciennes puissances, soit coloniales ou non coloniales, que ce soit la Russie, que ce soit les États-Unis, mais on ne cherchait pas à, disons, développer une sorte de modèle proprement africain, c'est-à-dire proprement local, si vous voulez. Je sais bien qu'il faut des échanges, mais il faut que l'industrie, la technique s'adapte à la mentalité, à la capacité, et même trouver, surtout du point de vue alimentaire, il est quand même effrayant de penser que l'Afrique souffre de problèmes alimentaires. C'est une chose qui vient de ce que, à mon avis, les élites se sont coupées du peuple. Ce n'est pas qu'elles soient mauvaises, mais elles ont été attirées, et j'en veux une preuve, un symptôme. Monsieur, c'est l'immigration. Je vois chez moi, par exemple, en France, beaucoup de gens de la moyenne bourgeoisie africaine s'installent. Bien. Et vraiment, je dirais que ce que je peux reprocher, c'est, ce n'est pas des reproches intellectuels ou politiques, mais c'est un reproche de, c'est un manque de sensibilité. Voyez-vous, quand on vit en dehors de son peuple, quand on ne songe qu'à ses intérêts, évidemment, comment vous dire, l'arbre devient sec, l'arbre n'a plus ses racines, voyez-vous. Et c'est ce qui arrive malheureusement, et je crois que nous devons nous attendre d'ailleurs à une grande émigration africaine vers l'Europe. Oui, et ce n'est pas que je le reproche, que je le déplore, mais disons que c'est quelque chose qui est au détriment du développement africain, voyez-vous, surtout si la classe moyenne, qui est en formation, la classe moyenne, ce que Marx appelle la petite bourgeoisie, avec souvent un peu de mépris, elle est nécessaire à un pays, voyez-vous, et c'est celle-là qui doit fixer la stabilité du pays. Je crois que les États, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, ont trop tourné le regard vers l'extérieur, sans un développement interne, voyez-vous. Ce qu'a fait, je me permets de faire la conclusion ainsi, regardez par exemple l'Allemagne aujourd'hui. L'Allemagne est prête, qui a investi énormément en Russie, voyez-vous, elle est prête à une deuxième solution, celle du gaz de schiste. Mais elle tient les deux solutions, voyez, parce qu'elle songe, on y parle beaucoup de l'Allemagne, elle songe, disons, elle vit dans l'intériorité, elle vit sur elle-même, le plus possible. Je crois que c'est un exemple dans la pensée philosophique, mais un exemple également dans la conduite. Et je crois que que tant l'Union européenne aujourd'hui, qui se partage, que ceux qui sont pour les Américains, ceux qui sont dans l'opinion française pour les Russes, ne voient pas qu'un développement est d'abord un effort personnel et sur soi, un effort d'intériorité. Comment vous dire, la santé n'est pas quelque chose qui vient par imitation du voisin, c'est par la pratique personnelle que vous avez. C'est cela un peu, disons, le sens de la signification de la crise qui a atteint par exemple l'Afrique, voyez-vous, c'est un symptôme d'une faiblesse antérieure. Ce n'est pas simplement le résultat d'un accident extérieur.
Luc Michel, M. Pierre d'Ortiguier pense que les responsables africains se sont détachés du peuple, au détriment du peuple justement. Est-ce que d'après vous, ce n'est pas le cas pour les pays européens également?
Écoutez, l'Afrique est prisonnière d'un double mécanisme, un mécanisme financier économique. On pense souvent à la France-Afrique et au franc CFA, mais également le Commonwealth avec l'hégémonie de la City de Londres. Par exemple, les 5 plus grandes banques du Nigeria dépendent de la City de Londres. Et depuis 2019, avec le Brexit, il y a un renouveau de l'impérialisme anglo-saxon, c'est-à-dire que Washington et Londres agissent de façon économique en concert en Afrique. Le second mécanisme, il est culturel. C'est expliqué par Frantz Fanon. Je connais bien la pensée de Frantz Fanon parce que j'ai été ami en Libye avec son secrétaire Marcel Manville, le regretté Marcel Manville, le fondateur du BRAP. Fanon a écrit un livre fondamental, c'est peau noire, masque blanc. Il explique que le colonisé est colonisé dans sa tête. Ce qu'il a écrit pour les Africains, c'est également valable pour les élites atlantistes européennes. Moi, je me sers de Frantz Fanon pour expliquer la suggestion des atlantistes à l'Empire américain en Europe. Tous ces gens sont américains dans leur tête, tous ces gens africains sont occidentaux dans leur tête. Il faut commencer par décoloniser l'homme africain et l'homme européen dans sa tête avant de décoloniser économiquement et militairement. Mais il y a un renouveau en Afrique. Les jeunes africains, les masses africaines, n'ayant pas d'africanisme, n'ont plus cette suggestion. Nous ne sommes plus en 1960. Il y a aujourd'hui des chefs d'État, moi je les fréquente, le regretté Kourou au Burundi, Daïchi Meyo au Burundi, le regretté Maréchal Idriss Déby, ont bien que des mamans sont le premier d'entre eux, en Guinée équatoriale, Touadéra ou encore Assimi Goïta. Eux, ils appartiennent à une autre génération. Ils ne sont plus colonisés dans leur tête. C'est pour ça qu'ils sont des ennemis jurés de la France qui veut les détruire. C'est ça que les Français n'ont pas compris. Ils croient encore qu'ils sont en 2010 ou en 1960. Quand je vois qu'ils sont venus recruter en Afrique des mercenaires africains pour faire la guerre en Ukraine, ils ont commis une faute psychologique absolue qui est en train de les couler définitivement psychologiquement en Afrique.
Monsieur Luc Michel, est-ce qu'on peut croire que vous êtes optimiste, car cette mobilisation d'indépendance a déjà commencé, au Mali en particulier. Donc est-ce qu'on peut être optimiste à l'égard de l'avenir de l'Afrique ?
Je ne suis pas optimiste seulement en Afrique. Vous savez, je fêterai l'année prochaine mes 50 ans de vie militante. J'ai connu beaucoup de défaites et beaucoup d'échecs. J'ai vu mourir les pays que j'aimais qui étaient les miens. L'URSS, la RDA, la Yougoslavie, la Jamaïque libyenne. J'ai combattu pour eux en vain parce que le rapport de force était très supérieur. Mais maintenant, avec Poutine, avec le renouveau de la Russie, avec ce que je vois en Ukraine, avec ce que je vois en Afrique, je crois de nouveau que la victoire est possible et j'espère encore les voir à la fin de ma vie. Oui, je suis optimiste et je le suis particulièrement en Afrique parce que là-bas, nous avons fait un immense effort. Vous connaissez la théorie d'Antonio Gramsci, le leader communiste italien. Il dit qu'avant de prendre le pouvoir politique, on prend le pouvoir culturel. C'est vrai aussi en géopolitique. Nous avons travaillé pendant des années après la chute de la Jamaïque en Afrique pour préparer l'arrivée des Russes, pour préparer les masses panafricaines à se séparer du monde occidental. Et aujourd'hui, nous avons le succès. Tout simplement, les jeunes Africains nous suivent. Une chaîne comme Afrique Média, 220 millions de téléspectateurs. Le Zoom Afrique de Presse TV est suivi par toutes les élites africaines. C'est une révolution culturelle. En Afrique, la bataille médiatique, nous la menons avec succès contre les Occidentaux. Il y a des rapports du Pentagone qui me présentent comme l'un des 5 influenceurs en Afrique de la politique russe et une étude de France Télévisions qui dit que je suis parmi les 5 top influenceurs de la politique africaine en France et en Afrique centrale. Cela me rend optimiste. Oui, la victoire est possible. Elle est possible aussi grâce à un homme. Il faut lui rendre hommage. Il s'appelle Vladimir Poutine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on organise sur les plateaux de télévision de LCI, par exemple, des débats. Faut-il assassiner Poutine ? Ou des journalistes et des généraux français expliquent que le mieux, c'est de lui mettre une balle dans la tête au détour d'un couloir du Kremlin. C'est le degré d'abjection dans lequel sont descendus les Occidentaux en pleine panique sur tous les Français.
Pierre Dortiguier, à votre tour, est-ce que vous êtes également d'accord avec la position de M. Luc Michel ? Est-ce que vous partagez son optimisme à cet égard ? Est-ce que la victoire est possible pour les Africains, malgré donc les impacts économiques et de la guerre ?
Je fais abstraction, ce n'est pas du tout une critique, mais disons, je mets de côté ce qu'il dit sur l'Union soviétique, la Chine, que j'ai connue au début de la révolution culturelle. Bien, j'étais moi-même, vous savez, en politique, après le départ du général de Gaulle, j'étais un de ses archivistes, pour il m'en avait remercié personnellement. Donc j'avais une vision qui était, je répète encore, ni Est ni Ouest, mais une vision indépendante. Ceci dit, je suis optimiste quand... sur un seul point, c'est le fait que les masses africaines, sans aucune nuance péjorative, sont plus mûre qu'autrefois, qu'il y a en effet une génération qui n'est plus celle, disons, des gens soumis des années 60. Eh bien, je me rappelle très bien aussi, il a cité M. Michel Frantz Fanon, qui a marqué notre génération, c'est vrai, mais je suis très pessimiste quant à l'affrontement, disons, de deux systèmes, système américain et système, que je dirais russe, mais pour moi, qui est la suite du système soviétique, ce qui n'est pas une critique, c'est un fait. Et je dirais, comme ayant été formé à la philosophie, je dis ça sans aucune orgueil, vous savez, mais je reprendrai la formule du philosophe allemand Heidegger, Martin Heidegger, qui dit « Américanisme et soviétisme sont des formes, disons, de pensée superficielle. » Et je crois que c'est cette pensée superficielle qui conduit, elle n'est pas fausse, il n'y a pas que des faussetés, mais il y a être superficiel, c'est ne pas voir les racines populaires, les racines sensibles, ne pas voir l'entier de l'être humain, c'est-à-dire ne se fier qu'à l'homme économique, si vous voulez. Vous voyez, c'est-à-dire, et c'est ça qui me rend pessimiste, justement, de ce point de vue, non pas sur l'Afrique, non du tout, mais quant à l'affrontement, à mon avis, fatal, des deux systèmes qui, peut-être, aux yeux de Dieu, n'en font qu'un seul.
Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Auteur réputé de livres pour enfants, Mehdi Azhar Yazdi est né en 1922 à Yazd et meurt en 2009 à Téhéran. Ses ancêtres faisaient partie des Zoroastriens convertis à l'islam. Il a appris à lire et à écrire de son père et a ensuite poursuivi ses études par lui-même. Adolescent, il passait son temps à lire des livres, notamment le Coran, Mafatihul Jinan, Masnavi de Molavi, les œuvres de Sadi de Shiraz et le Divan de Hafez. En 1944, il quitta sa ville natale et alla vivre à Téhéran. Azhar Yazdi a travaillé comme ouvrier du bâtiment et simple ouvrier dans des ateliers de tissage de chaussettes, des maisons d'édition et des librairies. Il a travaillé aussi pour des maisons d'édition réputées comme Amir Kabir, Ashrafi et Etelerat. Il a commencé sa carrière en 1956. Ses livres sont des adaptations d'œuvres de la littérature persane classique réécrites pour les enfants dans un style facile à comprendre. Son livre, le plus remarquable, était « De bonnes histoires pour de bons enfants », écrit en 8 volumes, basé sur plusieurs œuvres de la littérature persane, dont Kalila et Dimna, Golestan, Masnavi et Manavi, Marzban-Namé, Sambad-Namé, Rabus-Namé, Maghalla de Shams Tabrizi, Jamiul Hikayat, Siyasat-Namé et quelques histoires du Coran et de la vie du prophète Mohammed et des 14 imams infaillibles. Le livre a remporté un prix de l'UNESCO en 1966. De bons histoires pour de bons enfants a été traduit en plusieurs langues, dont l'espagnol, l'arménien, le chinois et le russe. Mehdi Azhar Yazdi est également l'auteur de « Chat méchant »,« Chat joueur »,« Histoire simple »,« Poésie du sucre et du miel » et « Masnavi des bons enfants ». Une autre de ses œuvres, « Adam », a été élu meilleur livre de l'année en 1968. Azhar Yazdi a dit un jour, lors d'une cérémonie organisée par l'Association iranienne des luminaires en son honneur, en février 2007, « Quand j'avais 35 ans, j'ai quitté Yazd et j'ai ensuite commencé à lire Kalila et Dimna, ce qui est très difficile. Cependant, je l'ai trouvé très beau et j'ai ensuite décidé d'écrire pour les enfants. Je ne cherchais ni la gloire, ni l'argent. Je voulais seulement faire du bon travail. J'ai donc écrit de bonnes histoires pour de bons enfants. Azal Yazdi est décédé en 2009, après une période de maladie à l'hôpital Atiyeh de Téhéran, et son corps est enterré dans sa ville natale, Yazd. Le jour de sa mort a été choisi comme journée nationale de la littérature pour enfants. Bouchang Moradi Kermani, né le 7 septembre 1944, est un écrivain iranien qui écrit généralement pour des enfants et des adolescents. Il est né à Sirsht, un village de la province de Kerman, et a complété son éducation à Sirsht, Kerman et Téhéran. Quelques-uns des films iraniens et des séries télévisées sont basés sur ses livres. En 2006, Dariush Mehdoui a réalisé Mehman et Maman, Invité de maman, d'après le roman de Moradi Kermani, avec le même titre. Quelques livres de Moradi Kermani ont été traduits en anglais, allemand, espéranto, français, espagnol, néerlandais, arabe et arménien. Son autobiographie est publiée comme son dernier livre intitulé « Croyez-le ou pas » Chemin Kerali Benistit. Il a gagné de nombreux prix nationaux et de prestigieuses récompenses internationales comme le diplôme honorifique de Hans Christian Andersen en 1980 et le livre de l'année de l'Université de San Francisco en 2000. Quelques-uns de ses livres, Les récits de Majid, Une botte, Le palmier, Le conte de la jarre, La cruche, traduit en français par Chantal Le Brinquery, Invité de maman, Point sur la peau, Le sourire de la grenade, et croyez-le ou pas. Sader Choubak, né le 5 août 1916 et mort le 3 juillet 1998, était un auteur de nouvelles, de drames et de romans. Ses nouvelles se caractérisent par leur complexité, leur économie de détails et leur concentration sur un seul thème, ce qui conduit certains à les comparer aux peintures miniatures persanes. Choubak était un naturaliste et ses romans reflétaient le côté sombre de la société. Il était un ami très proche de Sader Hedayat, qui était un écrivain influent à cette époque. Sader Choubak est né à Boucher, où il a d'abord étudié avant de déménager à Shiraz, puis à Téhéran. Pendant un certain temps, il a été employé au ministère de l'Éducation et à la compagnie pétrolière. Largement considéré comme le plus grand écrivain naturaliste de la littérature persane, il a écrit une grande quantité d'œuvres, notamment des romans, des nouvelles et des pièces de théâtre. Dans ses œuvres, Choubak étudie la vie des personnes opprimées de la société qui sont victimes d'iniquités et de forces déterministes naturelles. Sympathique aux chagrins et aux misères de ces personnes, il propose une seule solution: combattre la corruption et l'injustice. Son roman Tangsir détaille les actes valeureux des combattants du Tangestan. Il a été traduit dans de nombreuses langues. Le cadre de cette histoire est Davos, habité principalement par des personnes migrants d'autres parties de la province de Boucher, y compris le Tangestan. Irrité par l'injustice sociale, le protagoniste, Zar Mohammad, prend la justice en main et combat les iniquités sociales. Zar Mohammad a gagné une somme d'argent considérable et se lance dans le commerce, mais il est arraché de son argent par le gouverneur. Amèrement désespéré par le retard ou l'absence de justice, il prend un fusil et tue un à un ses ennemis. Après le meurtre des fraudeurs, il est surnommé Shir Mohammad, Mohammad au cœur de lion, par les villageois. Le thème de la justice et de la vengeance remplit toute l'ambiance du roman. Une fois que la loi tardera à rendre justice à ceux qui la méritent, l'anarchie prévaudra avec, pour conséquence, que les gens décideront de leur propre sort et exerceront la justice à la lumière de leur propre définition du concept. Choubak déplore l'injustice sociale et l'ignorance aveugle des législateurs. la quête de justice se transforme en une mission messianique pour le protagoniste qui en vient à être considéré par les autres villageois comme un homme chargé de les libérer des mains tyranniques. Après de longues épreuves, Shir Muhammad échappe à l'emprise de la loi. Chubak dépeint un monde très brutal dans lequel les gens sont extrêmement mortifiés et ne peuvent pas se voir les uns les autres.
Thank you.